Et à 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est députée Les Républicains de l'Oise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale.
Bonjour Eric Woerth et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous venez d'entendre Dominique Seux, son édito. 30 milliards d'euros d'ici 30 ans pour redevenir une grande nation de l'innovation, dit Emmanuel Macron, pour mettre fin au sentiment de déclassement et de déclin de la France. Le plan présenté hier par le président de la République est-il à la hauteur des enjeux?
Alors c'est 30 milliards d'ici 2030, donc c'est assez rapide. Oui, il est à la hauteur des enjeux. Je pense que c'était un bon exercice. C'était un exercice nécessaire en sortie de crise. On a eu des plans d'urgence, plutôt fonctionné, ça coûtait très cher, on est très endetté. On a eu des plans de relance, c'est-à-dire l'accélération rapide de la croissance après la phase de Covid. Et puis maintenant, l'idée qu'il faut regarder plus loin et que le pays doit prendre des risques. Tous les pays le font. Enfin, la grande partie des pays qui ont réussi le font. Donc, et arrivent à marier, au fond, ces innovations de rupture dont on a besoin. Dominique Seux en parlait. Et l'industrialisation. Comment on industrialise tout ça? Comment on le transforme en produit?
Comment on réindustrialise la France?
Oui, la France, elle a besoin d'être réindustrialisée parce qu'elle a perdu pas mal d'industries, mais c'est pas en allant chercher ce que nous avons perdu. C'est en industrialisant les produits nouveaux, avec de la valeur ajoutée, avec des compétences. Ça veut dire aussi que les Français doivent être plus compétents, donc plus qualifiés.
Quand on regarde tous ces plans, parce que c'est pas le premier plan de relance ou d'investissement depuis Michel Rocard, il y en a des plans, il y en a eu sous Sarkozy également. Est-ce que vous pensez que ces plans, ces investissements massifs, permettront de créer le Steve Jobs, le Elon Musk français, permettront de créer la Tesla ou le Apple français? Qu'on attend désespérément.
Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Si ça ne se transforme pas dans une sorte de marasme administratif. Si c'est le cas, ça ne servira à rien. Si c'est pas le cas, si c'est bien géré, si les appels à projets, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire au fond que ceux qui souhaitent puissent présenter leur projet, qu'il y ait une sélection intelligente, qu'il n'y ait pas un saupoudrage dans tous les sens, qu'on ne transforme pas des crédits d'investissement majeurs en crédits de fonctionnement, parce que ça peut aussi arriver. Enfin, tout ça, on l'a beaucoup vécu. Nicolas Sarkozy va inventer les investissements d'avenir. C'était un peu la même idée. Là, le président de la République concentre les choses un peu mieux et puis surtout l'articule avec la crise. Et je pense que c'est une bonne chose. Et articule l'innovation avec l'industrialisation. Et ça manquait beaucoup. Puis l'articule aussi la taille des entreprises. On comprend bien que des grandes entreprises, c'est pas vraiment les entreprises les plus innovantes. C'est dans les toutes petites entreprises que naissent. On l'a vu aux États-Unis. Vous citiez des exemples. Il y a toujours des toutes petites entreprises à un moment donné avec des gens un peu géniaux. Des gens géniaux. Il y a beaucoup Apple. De gens dans leur garage qui donnent pas, Apple.
Mais il faut miser.
Mais honnêtement, il n'y a pas de raison que les Français soient mamans, sont plutôt meilleurs. Donc et d'ailleurs, la plupart des grands Français se sont parfois expatriés. Ouais. Une partie du vaccin est due aussi aux travaux de Français, expatriés certes.
Oui, expatriés. Sur le fond, 1 milliard d'euros pour le nucléaire pour créer des petits réacteurs, c'est une bonne idée ça?
Oui, moi ça a été difficile. Hollande avait écarté le nucléaire, Emmanuel Macron donnait ce sentiment en début de mandat. Visiblement, il revient à une idée plus solide qui est que la France doit être fière et solide de son industrie nucléaire. Il faut l'adapter, cette industrie, c'est tout.
Donc, il n'a pas remis en cause hier, en tout cas, contrairement à ce que dit Dominique Seux, il n'a pas remis en cause hier l'objectif d'arriver à 50% uniquement de baisser la production d'énergie par le nucléaire à 50% d'ici 2035.
En fait, c'est parce qu'on aura plus de consommation d'énergie. Donc, le nucléaire devra continuer à produire encore plus propre avec la problématique de déchets qu'on connaît bien. Mais il faut miser sur le nucléaire et puis en même temps, et surtout en même temps, continuer à développer les énergies renouvelables.
Mmh. Emmanuel Macron...
Rien ne s'oppose là-dedans. C'est ça qui est important. Ouais. Beaucoup de gens opposent tout ça. Et ça ne s'oppose pas. Il faut de tout. Sinon, on n'aura pas assez d'énergie dans les années qui viennent.
C'est chez vous surtout qu'on oppose, pardon. Hein. C'est à droite qu'on oppose. Hein. Quand on entend Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse
la droite, elle a d'énormes progrès à faire dans le domaine des propositions écologiques, c'est sûr.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que quand on entend Xavier Bertrand mettre les éoliennes comme ennemi numéro un à abattre,
surtout qu'une éolienne qu'on abat, ça fait du bruit. Non, je pense qu'en réalité, on a besoin de tout et que la droite, elle a besoin de faire des progrès. Et en cela, la procédure de désignation du candidat, j'espère, nous pourra faire des progrès.
On y vient. Mais d'abord, question rapide. Le prix du gazole flambe à la pompe comme jamais. Si vous étiez au pouvoir là, maintenant, tout de suite, vous faites quoi?
Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que l'énergie, elle va coûter plus cher. Et je pense qu'il faut à un moment donné, quand même, le dire à nos compatriotes, l'énergie, elle va coûter plus cher. Si on peut toujours dire le contraire, c'est pas vrai. Donc, je pense pas que
on
doive mentir.
Bien sûr que si.
On peut baisser un peu les taxes. On peut avoir des mécanismes qu'on a déjà d'ailleurs essayé de lissage de ces augmentations. Mais globalement, l'énergie, elle va augmenter, pas uniquement pour des raisons conjoncturelles. Et puis les taxes, entre nous, on en a quand même un tout petit peu besoin. Moi, je n'ai pas compris que l'État, il était surfinancé.
Voilà.
J'ai même compris à peu près le contraire.
Le dernier budget du quinquennat est arrivé à l'Assemblée nationale. Vous êtes le président de la Commission des Finances. Le ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, dit que c'est un budget de normalisation et d'accompagnement de la reprise après le quoi qu'il en coûte de la crise Covid. Vous utilisez les mêmes qualificatifs ?
Non. C'est quand même d'abord et avant tout un budget qui poursuit l'effort de dépenses. Et l'effort de dépenses, c'est pas possible. La France est endettée, alors elle la tiendra certainement d'ici l'année prochaine 3 000 milliards de dettes. Alors tout ça se paye allègrement lorsqu'on a des taux assez bas, mais on peut pas miser sur les taux assez bas. C'est un peu la roulette russe, mais honnêtement, la balle est pas loin du canon.
Oui, mais là, avec les taux d'intérêt aussi bas, est-ce que c'est pas le moment au fond de s'endetter, d'investir, de dépenser ?
C'est vrai pour des pays qui le sont pas, mais pour des pays qui le sont beaucoup, le surendettement n'est pas une bonne chose, ni pour un ménage. Ni pour un pays. Ça rogne l'idée même de souveraineté financière. Donc on peut pas dire d'un côté il faut investir pour avoir plus d'autonomie, être capable de produire les biens essentiels France-Europe, je parle évidemment, ouais. et puis laisser de côté l'idée d'une souveraineté financière. Il nous faut une autonomie financière. Donc il faut qu'on dépense moins dépenses courantes, ministères.
D'accord, mais faut qu'on dépense moins, vous parlez de l'euphorie budgétaire et dépensière folle du gouvernement actuel, mais quand je vois les propositions de vos candidats, de votre camp, Xavier Bertrand qui veut baisser l'impôt sur la production qui rapporte des milliards à l'État, Valérie Pécresse qui veut augmenter 10% tous les salaires nets, vous aussi, hein, reprendre l'expression de Valérie Pécresse, vous cramez la caisse aussi dans vos propositions.
Il faut hausser, non pas les dépenses, mais il faut hausser notre niveau de jeu et notre niveau de proposition. Il y a à un moment donné, il faut prendre en compte qu'un président de la République, il doit dire quelle France il veut incarner. Et c'est pas une France de l'endettement. Bien sûr qu'on n'aura jamais zéro endettement. Évidemment qu'il faut qu'on dépensera toujours plus que les autres parce qu'on a un modèle social notamment plus important.
Mais il faut le dire à vos amis.
Mais il faut limiter le volume d'augmentation de la dépense courante. Et ça, c'est fondamental.
Éric Woerth, on en vient à la situation chez vous, chez LR.
Pourquoi vous soufflez comme ça de bon matin ?
C'est pas facile.
Non, mais la vie n'est pas facile d'une manière générale, et LR de façon particulière. Donc je pense que au moins on a un processus de sélection du candidat. Alors on aurait pu l'avoir avant, hein, tout ça c'est vrai. On aurait pu le préparer depuis 5 ans. Donc, la situation étant celle d'aujourd'hui, tous les candidats seront candidats à cette mini primaire.
C'est une bonne chose Xavier Bertrand qui finalement participera au choix du Congrès. C'est une reculade
évidemment.
Ou un choix de la raison
de sa, d'abord c'est courageux de sa part d'une certaine. Façon.
Enfin, il a juste changé d'avis en 2 semaines, hein, le courage.
Oui, qui ne change pas d'avis, mais c'est juste courageux de sa part. Le public des militants n'est pas le public, n'est pas les Français. Et moi, j'engage quand même tous les candidats à ne pas uniquement parler à nos militants, mais parler surtout à tous les Français, parce que sinon, on va prendre des mois de retard par rapport aux autres candidats.
Justement.
Et honnêtement, ce qui nous divise aujourd'hui est quand même parfois plus important que ce qui nous rassemble. Ce qui n'est pas une petite histoire. Et donc, on a besoin de leadership. Ça a toujours été le cas, mais on a besoin d'un leadership. Affirmé.
Il est où votre leadership ?
Eh ben, on verra.
Vous le trouvez
chez les
trois, là ?
Il sera décidé. Je pense qu'à un moment donné, un candidat émergera et qu'il parlera de la France. Il dira quel président il veut être et pour quelle France.
Dernière question. Il semblerait que de plus en plus de vos militants LR quittent le bateau pour rejoindre Éric Zemmour. Vous nous le confirmez ?
C'est possible, oui. Quand on va dans des réunions de militants, les gens sont interloqués, un peu étonnés. Mais c'est vrai qu'Éric Zemmour, il est allé chercher là où il y avait du vide. Madame Le Pen a laissé beaucoup de vide, puisqu'elle se finalement, Monsieur Zemmour l'a fait passer pour une dangereuse gauchiste. Hein. Et puis de l'autre côté, une partie de la droite de LR. C'est retrouvé dans des propos qui sont en général sans solution et qui sont des propos d'intellectuels perdus dans une campagne présidentielle.
Merci Éric Woerth, belle journée à vous.
Merci. France Inter.